Honoré de Balzac, Gobseck. À 1 heure du matin, pendant l'hiver de 1822 à 1830, il se trouvait encore dans le salon de la vicomtesse de Grandlieu deux personnes étrangères à sa famille. Un jeune et joli homme sortit en entendant sonner la pendule. Quand le bruit de la voiture retentit dans la cour, la vicomtesse, ne voyant plus que son frère et un ami de la famille qui achevaient leur piquet, s'avança vers sa fille, qui, debout devant la cheminée du salon, semblait examiner un garde-vue en lithophanie et qui écoutait le bruit du cabriolet de manière à justifier les craintes de sa mère. « Camille, si vous continuez à tenir avec le jeune comte de Resto la conduite que vous avez eue ce soir, vous m'obligerez à ne plus le recevoir. Écoutez, mon enfant, si vous avez confiance en ma tendresse, laissez-moi vous guider dans la vie. À 17 ans, l'on ne sait juger ni de l'avenir, ni du passé, ni de certaines considérations sociales. Je ne vous ferai qu'une observation. Monsieur de Resto a une mère qui mangerait les millions. Une femme mal née, une demoiselle Goriot, qui jadis a fait beaucoup parler d'elle. Elle s'est si mal comportée avec son père qu'elle ne mérite certes pas d'avoir un si bon fils. Le jeune comte l'adore et la soutient avec une piété filiale digne des plus grands éloges. Il a surtout de son frère, de sa sœur, un soin extrême. Quelque admirable que soit cette conduite, ajouta la comtesse d'un air fin. Tant que sa mère existera, toutes les familles trembleront de confier à ce petit Resto l'avenir et la fortune d'une jeune fille. J'ai entendu quelques mots qui me donnent envie d'intervenir entre vous et mademoiselle de Grandlieu, s'écria l'ami de la famille. J'ai gagné, monsieur le comte, dit-il en s'adressant à son adversaire. « Je vous laisse pour courir au secours de votre nièce. » Et voilà ce qui s'appelle avoir des oreilles d'avoué, s'écria la comtesse. « Mon cher Derville, comment avez-vous pu entendre ce que je disais tout bas à Camille ?»« Moi, j'ai compris votre regard, » répondit Derville en s'asseyant dans une bergère au coin de la cheminée. L'oncle se mit à côté de sa nièce, et madame de Grandlieu prit place sur une chauffeuse entre sa fille et Derville. Il est temps, madame la vicomtesse, que je vous conte une histoire qui vous fera modifier le jugement que vous portez sur la fortune du comte Ernest de Resto.
Oh, une histoire ! S'écria Camille. Commencez donc vite, monsieur.
Derville jeta sur madame de Grandlieu un regard qui lui fit comprendre que ce récit devait l'intéresser. La vicomtesse de Grandlieu était, par sa fortune et par l'antiquité de son nom, une des femmes les plus remarquables du faubourg Saint-Germain. Et s'il ne semble pas naturel qu'un avoué de Paris pût lui parler si vulgairement et se comportât chez elle d'une manière si cavalière, il est néanmoins facile d'expliquer ce phénomène. Madame de Grandlieu, rentrée en France avec la famille royale, était venue habiter Paris où elle n'avait d'abord vécu que le secours accordé par Louis XVIII sur les fonds de la liste civile, situation insupportable. L'avoué eut l'occasion de découvrir quelques vices de forme dans la vente que la République avait jadis faite de l'hôtel de Grandlieu, et prétendit qu'il devait être restitué à la vicomtesse. Il entreprit ce procès moyennant un forfait et le gagna. Encouragé par ce succès, il chicana si bien je ne sais quel hospice qu'il en obtint la restitution de la forêt de Grandlieu. Puis il fit encore recouvrer quelques actions sur le canal d'Orléans et certains immeubles assez importants que l'empereur avait donné en dot à des établissements publics. Ainsi, rétabli par l'habileté du jeune avoué,
la fortune de Madame de Grandlieu s'était élevée à un revenu de 60 000 francs environ, hors de la loi sur l'indemnité qui lui avait rendu des sommes énormes. Homme de haute probité, savant, modeste et de bonne compagnie, cet avoué devint alors l'ami de la famille. Quoique sa conduite envers Madame de Grandlieu lui eût mérité l'estime et la clientèle des meilleures maisons du faubourg Saint-Germain, il ne profitait pas de cette faveur comme en aurait pu profiter un homme ambitieux. Il résistait aux offres de la vicomtesse, qui voulait lui faire vendre sa charge et le jeter dans la magistrature, carrière où, par ses protections, il aurait obtenu le plus grand rapide avancement. À l'exception de l'hôtel de Grandlieu, où il passait quelquefois la soirée, il n'allait dans le monde que pour y entretenir ses relations. Il était fort heureux que ses talents eussent été mis en lumière par son dévouement à Madame de Grandlieu, car il aurait couru le risque de laisser dépérir son étude. Derville n'avait pas une âme d'avoué. Depuis que le comte Ernest de Restaud s'était introduit chez la vicomtesse et que Derville avait découvert la sympathie de Camille pour ce jeune homme, il était devenu aussi assidu chez Madame de Grandlieu que l'aurait été un dandy de la chaussée d'Antin, nouvellement admis dans les cercles du noble faubourg. Quelques jours auparavant, il s'était trouvé dans un bal auprès de Camille et lui avait dit, en montrant le jeune comte, « Ben, il est dommage que ce garçon-là n'ait pas 2 ou 3 millions, n'est-ce pas ?»« Bon, est-ce un malheur ? Je ne le crois pas, » avait-elle répondu. « Monsieur de Restaud a beaucoup de talent. Il est instruit et bien vu du ministre auprès duquel il a été placé. » « Je ne doute pas qu'il ne devienne un homme très remarquable. Ce garçon-là trouvera tout autant de fortune qu'il en voudra, le jour où il sera parvenu au pouvoir. » « Oui, mais s'il était déjà riche... »« Oh, s'il était riche !» dit Camille en rougissant. « Mais toutes les jeunes personnes qui sont ici se disputeraient, » ajouta-t-elle en montrant les quadrilles. « Et alors, avait répondu l'avoué, Mademoiselle de Grandlieu ne serait plus la seule vers laquelle il tournerait les yeux. Voilà pourquoi vous rougissez. Vous vous sentez du goût pour lui, n'est-ce pas? Allons, dites-le. » Camille s'était brusquement levée. « Elle l'aime, avait pensé Derville. » Depuis ce jour, Camille avait eu pour l'avoué des attentions inaccoutumées en s'apercevant qu'il approuvait son inclination pour le jeune comte Ernest de Restaud. Jusque-là, quoiqu'elle n'ignorât aucune des obligations de sa famille envers Derville, elle avait eu pour lui plus d'égards que d'amitié, vrai, plus de politesse que de sentiment. Ses manières, aussi bien que le ton de sa voix, lui avaient toujours fait sentir la distance que l'étiquette mettait entre eux. La reconnaissance est une dette que les enfants n'acceptent pas toujours à l'inventaire. Cette aventure, dit Derville après une pause, me rappelle les seules circonstances romanesques de ma vie. Vous riez déjà, reprit-il, en entendant un avoué vous parler d'un roman dans sa vie. Mais... J'ai eu 25 ans, comme tout le monde, et à cet âge, j'avais déjà vu d'étranges choses. Je dois commencer par vous parler d'un personnage que vous ne pouvez pas connaître. Il s'agit d'un usurier. Saisirez-vous bien cette figure pâle et blafarde à laquelle je voudrais que l'Académie me permît de donner le nom de face lunaire. Elle ressemblait à du vermeil dédoré. Les cheveux de mon usurier étaient plats, soigneusement peignés d'un gris cendré. Les traits de son visage, impassible autant que celui de Talleyrand, paraissaient avoir été couplés en bronze. Jaune comme ceux d'une fouine, ses petits yeux n'avaient presque point de cils et craignaient la lumière. mais l'abat-jour d'une vieille casquette les en garantissait. Son nez pointu était si grêlé dans le bout que vous l'eussiez comparé à une vrille. Il avait les lèvres minces de ces alchimistes et de ces petits vieillards peints par Rembrandt ou par Metsu. Cet homme parlait bas, d'un ton doux et ne s'emportait jamais. Son âge était un problème. On ne pouvait pas savoir s'il était vieux avant le temps ou s'il avait ménagé sa jeunesse afin qu'elle lui servît toujours. Tout était propre et râpé dans sa chambre, pareil depuis le drap vert du bureau jusqu'au tapis du lit, au froid sanctuaire de ces vieilles filles qui passent la journée à frotter leurs meubles. En hiver, les tisons de son foyer, toujours enterrés dans un talus de cendres, y fumaient sans flamber. Ses actions, depuis l'heure de son lever jusqu'à ses accès de tout le soir, étaient soumises à la régularité d'une pendule. C'était en quelque sorte un homme modèle que le sommeil remontait. Si vous touchez un cloporte chebinant sur un papier, il s'arrête et fait le mort. De même, cet homme s'interrompait au milieu de son discours et se taisait au passage d'une voiture afin de ne pas forcer sa voix. À l'imitation de Fontenelle, il économisait le mouvement vital et concentrait tous les sentiments humains dans le moi. Aussi, sa vie s'écoulait-elle sans faire plus de bruit que le sable d'une horloge antique. Quelquefois, ses victimes criaient beaucoup, s'emportaient, puis après, il se faisait un grand silence, comme dans une cuisine où l'on égorge un canard. Vers le soir, l'homme billet se changeait en un homme ordinaire et ses métaux se métamorphosaient en cœur humain. S'il était content de sa journée, il se frottait les mains en laissant échapper par les rides crevassées de son visage une fumée de gaieté, car il est impossible d'exprimer autrement le jeu muet de ses muscles, où se peignait une sensation comparable au rire à vide de bas de cuir. Enfin, dans ses plus grands accès de joie, sa conversation restait monosyllabique et sa contenance était toujours négative. Tel est le voisin que le hasard m'avait donné dans la maison que j'habitais rue des Grès, quand je n'étais encore que second clerc et que j'achevais ma troisième année de droit. Cette maison, qui n'a pas de cour, est humide et sombre. Les appartements n'y tinrent leur jour que de la rue. La distribution claustrale qui divise le bâtiment en chambres d'égale grandeur, en ne leur laissant d'autre issue qu'un long corridor éclairé par des jours de souffrance, annonce que la maison a jadis fait partie d'un couvent. À ce triste aspect, la gaieté d'un fils de famille expirait avant qu'il n'entrât chez mon voisin. Sa maison et lui se ressemblaient. Vous eussiez dit de l'huître et de son rocher. Le seul être avec lequel il communiquait, socialement parlant, était moi. Il venait me demander du feu, m'empruntait un livre, un journal, et me permettait le soir d'entrer dans sa cellule où nous causions quand il était de bonne humeur. Ces marques de confiance étaient le fruit d'un voisinage de 4 années et de ma sage conduite qui, faute d'argent, ressemblait beaucoup à la sienne. Avait-il des parents, des amis? Était-il riche ou pauvre? Personne n'aurait pu répondre à ces questions. Je ne voyais jamais d'argent chez lui. Sa fortune se trouvait sans doute dans les caves de la banque. Il recevait lui-même ses billets en courant dans Paris d'une jambe sèche comme celle d'un cerf. Il était d'ailleurs martyr de sa prudence. Un jour, par hasard, il portait de l'or. Un double Napoléon se fit jour, on ne sait comment, à travers son gousset. Un locataire, qui le suivait dans l'escalier, ramassa la pièce et la lui présenta.
« Oh, cela ne m'appartient pas, » répondit-il avec un geste de surprise. « À moi, de l'or, mais vivrais-je comme je vis si j'étais riche ?»
Le matin, il apprêtait lui-même son café sur un réchaud de tôle qui restait toujours dans l'angle noir de sa cheminée. Un rôtisseur lui apportait à dîner. Notre vieille portière montait à une heure fixe pour approprier la chambre. Enfin, par une singularité que Sterne appellerait d'une prédestination, cet homme se nommait Gobseck. Quand plus tard je fis des affaires, j'appris qu'au moment où nous nous connûmes, il avait environ 73 ans. Il était né vers 1740 dans les faubourgs d'Anvers, d'une juive et d'un hollandais, et se nommait Jean Esther van Gobseck. Vous savez combien Paris s'occupa de l'assassinat d'une femme nommée la Belle Hollandaise. Quand j'en parlais par hasard à mon ancien voisin, il me dit, sans exprimer ni le moindre intérêt ni la plus légère surprise, ah, « C'est ma petite nièce. » Cette parole fut tout ce que lui arracha la mort de sa seule et unique héritière, la petite fille de sa sœur. Les débats m'apprirent que la belle Hollandaise se nommait en effet Sarah van Gobseck. Lorsque je lui demandais par quelle bizarrerie sa petite nièce portait son nom, « Bon, les femmes ne se sont jamais mariées dans votre famille, » me répondit-il en souriant. Cet homme singulier n'avait jamais voulu voir une seule personne des quatre générations femelles où se trouvaient ses parents. Il abhorrait ses héritiers et ne concevait pas que sa fortune pût jamais être possédée par d'autres que lui, même après sa mort. Sa mère l'avait embarqué dès l'âge de 10 ans en qualité de mousse pour les possessions hollandaises dans les Grandes Indes, où il avait roulé pendant 20 années. Aussi les rides de son front jaunâtre gardaient-elles les secrets d'événements horribles, de terreurs soudaines, de hasards inespérés, de traverses romanesques, de joies infinies. La faim supportée, l'amour foulé aux pieds, la fortune compromise, perdue, retrouvée, la vie maintes fois en danger et sauvée, peut-être par ces déterminations dont la rapide urgence excuse la cruauté. Il avait connu M. de Lally, M. de Kergarouët, M. d'Estaing, le bailli de Suffren, M. de Portenduère, Lord Colwells, Lord Hastings, le père de Tippo-Saeb et Tippo-Saeb lui-même. Ce Savoyard qui servit Mahabji Sindhia, le roi de Delhi, et contribua tant à fonder la puissance des Mahrattes, avait fait des affaires avec lui. Il avait eu des relations avec Victor Hughes et plusieurs célèbres corsaires, car il avait longtemps séjourné à Saint-Thomas. Il avait si bien tout tenté pour faire fortune qu'il avait essayé de découvrir l'or de cette tribu de sauvages si célèbre aux environs de Buenos Aires. Enfin, il n'était en danger à aucun des événements de la guerre de l'indépendance américaine. Mais quand il parlait des Indes de l'Amérique, ce qui ne lui arrivait avec personne et fort rarement avec moi, il semblait que ce fût une indiscrétion. Il paraissait s'en repentir. Si l'humanité, si la sociabilité sont une religion, il pouvait être considéré comme un athée. Quoique je me fusse proposé de l'examiner, je dois avouer à ma honte que jusqu'au dernier moment, son cœur fut impénétrable. Je me suis quelquefois demandé à quel sexe il appartenait. Si les usuriers ressemblent à celui-là, je crois qu'ils sont tous du genre neutre. Était-il resté fidèle à la religion de sa mère Et regardait-il les chrétiens comme sa proie? S'était-il fait catholique, mahométan, brahmou ou luthérien? Je n'ai jamais rien su de ses opinions religieuses. Il me paraissait être plus indifférent qu'incrédule. Un soir, j'entrais chez cet homme qui s'était fait or, et que par antiphrase ou par raillerie, ses victimes qu'il nommait ses clients appelaient Papa Gobseck. Je le trouvais sur son fauteuil, immobile comme une statue, les yeux arrêtés sur le manteau de la cheminée où il semblait relire ses bordereaux d'escompte. Une lampe fumeuse dont le pied avait été vert jetait une lueur qui, loin de colorer ce visage, en faisait mieux ressortir la pâleur. Il me regarda silencieusement et me montra ma chaise qui m'attendait. « À quoi cet être-là pense-t-il » me dis-je. « Sait-il, s'il existe un Dieu, un sentiment, des femmes, un bonheur ?» Je le plaignis comme j'aurais plaint un malade. Mais je comprenais bien aussi que s'il avait des millions à la banque, il pouvait posséder par la pensée la terre qu'il avait parcourue, fouillée, soupesée, évaluée, exploitée. « Bonjour, papa Gobseck, lui dis-je. » Il tourna la tête vers moi, ses gros sourcils noirs se rapprochèrent légèrement. Chez lui, cette inflexion caractéristique équivalait au plus gai sourire d'un méridional. Vous êtes aussi sombre que le jour où l'on est venu vous annoncer la faillite de ce libraire de qui vous avez tant admiré l'adresse, quoique vous en ayez été la victime. Victime ? Dit-il d'un air étonné. Afin d'obtenir son concordat, ne vous avait-il pas réglé votre créance en billets signés de la raison de commerce en faillite? Et quand il a été rétabli, ne vous les a-t-il pas soumis à la réduction voulue par le concordat? Oh, il était fin, répondit-il, mais je l'ai repincé. Avez-vous donc quelques billets à protester? Nous sommes le 30, je crois. Je lui parlais d'argent pour la première fois. Il leva sur moi ses yeux par un mouvement railleur. Puis de sa voix douce, dont les accents ressemblaient au son que tire de sa flûte un élève qui n'en a pas l'embouchure, « Je m'amuse, me dit-il. » « Vous vous amusez donc quelquefois ? Croyez-vous qu'il n'y ait de poète que ceux qui impriment des vers ?» me demanda-t-il en haussant les épaules et me jetant un regard de pitié. « De la poésie dans cette tête, pensais-je, car je ne connaissais encore rien de sa vie. Quelle existence pourrait être aussi brillante que la mienne ? » dit-il en continuant, et son œil s'anima. « Vous êtes jeune, vous. Vous avez les idées de votre sang. Vous voyez les figures de femmes dans vos tisons. Moi, je n'aperçois que des charbons dans les miens. Vous croyez à tout. Moi, je ne crois à rien. Gardez vos illusions, si vous le pouvez. Je vais vous faire faire le décompte de la vie. Soit que vous voyagiez, soit que vous restiez au coin de votre cheminée et de votre femme, il arrive toujours un âge auquel la vie n'est plus qu'une habitude exercée dans un certain milieu préféré. Le bonheur consiste alors dans l'exercice de nos facultés appliquées à des réalités. Or, ces deux préceptes, tout est faux. Mes principes ont varié, comme ceux des hommes. J'en ai dû changer à chaque latitude. Ce que l'Europe admire, l'asile punit. Ce qui est un vice à Paris est une nécessité quand on a passé les Açores. Rien n'est fixe ici-bas. Il n'y existe que des conventions qui se modifie suivant les climats, pour qui s'est jeté forcément dans tous les milieux sociaux. Les convictions et les morales ne sont plus que des mots sans valeur. Reste en nous le seul sentiment vrai que la nature y ait mis, l'instinct de notre conservation. Dans nos sociétés européennes, cet instinct se nomme intérêt personnel. Si vous aviez vécu autant que moi, vous sauriez qu'il n'est qu'une âme, qu'une seule chose matérielle dont la valeur soit assez certaine pour qu'un homme s'en occupe. Cette chose, c'est l'or. L'or représente toutes les forces humaines. J'ai voyagé, j'ai vu qu'il y avait partout des plaines ou des montagnes. Les plaines ennuient, les montagnes fatiguent, les lieux ne s'y finissent donc rien. Quant aux mœurs, l'homme est le même partout. Partout le combat entre le pauvre et le riche est établi, partout il est inévitable. Il vaut donc mieux être l'exploitant que d'être l'exploité. Partout il se rencontre des gens musculeux qui travaillent et des gens lymphatiques qui se tourmentent. Partout les plaisirs sont les mêmes, car partout les sens s'épuisent, il ne leur survit qu'un seul sentiment, la vanité. La vanité, c'est toujours le moi. La vanité ne se satisfait que par des flots d'or. Nos fantaisies veulent du temps, des moyens physiques ou des soins. Eh bien, l'or contient tout en germe et donne tout en réalité. Il n'y a que des fous, des malades qui puisse trouver du bonheur à battre les cartes tous les soirs pour savoir s'ils gagneront quelques sous. Il n'y a que des sots qui puissent employer leur temps à se demander ce qui se passe, si madame une telle s'est couchée sur son canapé, seule ou en compagnie, si elle a plus de sang que de lymphe, plus de tempérament que de vertu. Il n'y a que des dupes qui puissent se croire utiles à leurs semblables, en s'occupant à tracer des principes politiques pour gouverner des événements toujours imprévus. Il n'y a que des niais qui puissent aimer à parler des acteurs et à répéter leurs mots, à faire tous les jours, mais sur un plus grand espace, la promenade que fait un animal dans sa loge, à s'habiller pour les autres, à manger pour les autres, à se glorifier d'un cheval ou d'une voiture que le voisin ne peut savoir que 3 jours après eux. N'est-ce pas là la vie de vos Parisiens traduite en quelques phrases? Voyons l'existence de plus haut qu'ils ne la voient. Leur bonheur consiste ou en émotions fortes qui usent la vie ou en occupations réglées qui en font une mécanique anglaise fonctionnant par temps régulier. Au-dessus de ces bonheurs, il existe une curiosité prétendue noble de connaître les secrets de la nature ou d'obtenir une certaine imitation de ses effets. N'est-ce pas, en deux mots, l'art ou la science, la passion ou le calme? Eh bien, toutes les passions humaines agrandies par le jeu de vos intérêts sociaux viennent parader devant moi, qui vis dans le calme. Puis votre curiosité scientifique, espèce de lutte où l'homme a toujours le dessous, je la remplace par la pénétration de tous les ressorts qui font mouvoir l'humanité. En un mot, je possède le monde sans fatigue, et le monde n'a pas la moindre prise sur moi. Écoutez-moi, reprit-il. Par le récit des événements de la matinée, vous devinerez mes plaisirs. Il se leva, alla pousser le verrou de sa porte, tira un rideau de vieille tapisserie dont les anneaux crièrent sur la tringle, et revint s'asseoir. « Ce matin, me dit-il, je n'avais que deux effets à recevoir. Les autres avaient été donnés la veille, comme comptant à mes pratiques. Autant de gagner. Car à l'escompte, je déduis la course que me nécessite la recette en prenant 40 sous pour un cabriolet de fantaisie. Ne serait-il pas plaisant qu'une pratique me fît traverser Paris pour 6 francs d'escompte? Moi qui n'obéis à rien, moi qui ne paye que 7 francs de contribution. Le premier billet, valeur de 1000 francs présenté par un jeune homme, beau fils à gilet pailleté, à lorgnon, à Tilbury, cheval anglais, etc., était signé par l'une des plus jolies femmes de Paris, mariée à quelque riche propriétaire, un comte. Pourquoi cette comtesse avait-elle souscrit une lettre de change, nulle en droit, mais excellente en fait? Car ces pauvres femmes craignent le scandale que produirait un protêt dans leur ménage et se donneraient en paiement plutôt que de ne pas payer. Je voulais connaître la valeur secrète de cette lettre de change. Était-ce bêtise, imprudence, amour, charité? Le second billet, d'égal somme, signé Fanny Malvaux, m'avait été présenté par un marchand de toile en train de se ruiner. Aucune personne, ayant quelque crédit à la banque, ne vient dans ma boutique, où le premier pas fait de ma porte à mon bureau dénonce un désespoir, une faillite près d'éclore, et surtout un refus d'argent éprouvé chez tous les banquiers. Aussi ne vois-je que des cerfs aux abois, traqués par la meute de leurs créanciers. La comtesse demeurait rue du Helder et ma Fanny rue Montmartre. Combien de conjectures n'ai-je pas faites en m'en allant d'ici ce matin? Si ces deux femmes n'étaient pas en mesure, elles allaient me recevoir avec plus de respect que si j'eusse été leur propre père. Combien de singeries la comtesse ne me jouerait-elle pas pour 1000 francs? Elle allait prendre en air affectueux, me parler de cette voix dont les câlineries sont réservées à l'endosseur du billet, me prodiguer des paroles caressantes, me supplier, peut-être, et moi. Là, le vieillard me jeta son regard blanc. Et moi, inébranlable, reprit-il, je suis là comme un vengeur, j'apparais comme un remords. Bon, sur les hypothèses, j'arrive. Madame la comtesse est couchée, me dit une femme de chambre. Quand sera-t-elle visible? À midi. Madame la comtesse serait-elle malade? Oh non, monsieur, mais elle est rentrée du bal à 3 heures. Je m'appelle Gobseck, dites-lui mon nom. Je serai ici à midi. Et je m'en vais en signant ma présence sur le tapis qui couvrait les dalles de l'escalier. J'aime à crotter les tapis de l'homme riche, non par petitesse, mais pour leur faire sentir la griffe de la nécessité. Parvenu rue Montmartre à une maison de peu d'apparence, je pousse une vieille porte cochère et vois une de ces cours obscures où le soleil ne pénètre jamais. La loge du portier était noire. Le vitrage ressemblait à la chemanche d'une douillette trop longtemps portée, il était gras, brun, lézardé. « Mademoiselle Fanny Malvaux, elle est sortie, mais si vous voulez pour un billet, l'argent est là. »« Je reviendrai, dis-je. » Du moment où le portier avait la somme, je voulais connaître la jeune fille. Je me figurais qu'elle était jolie. Je passe la matinée à voir les gravures étalées sur le boulevard, puis à midi sonnant, je traversais le salon qui précède la chambre de la comtesse. Madame me sonne à l'instant, me dit la femme de chambre, je ne crois pas qu'elle soit visible.
Je l'attendrai, répondis-je en m'asseyant sur un fauteuil. Les persiennes s'ouvrent, la femme de chambre accourt et me dit « Entrez, monsieur !» À la douceur de sa voix, je devinais que sa maîtresse ne devait pas être en mesure. Combien était belle la femme que je vis alors! Elle avait jeté à la hâte sur ses épaules nues un châle de cachemire dans lequel elle s'enveloppait, si bien que ses formes pouvaient se deviner dans leur nudité. Elle était vêtue d'un peignoir garni de ruches blanches comme neige et qui annonçait une dépense annuelle d'environ 2 000 francs chez la blanchisseuse enfin. Ses cheveux noirs s'échappaient en grosses boucles d'un joli madras négligemment noué sur sa tête à la manière des créoles. Son lit offrait le tableau d'un désordre produit sans doute par un sommeil agité. Un peintre aurait payé pour rester pendant quelques moments au milieu de cette scène. Sous des draperies voluptueusement attachées, un oreiller enfoncé sur un édredon de soie bleue et dont les garnitures en dentelle se détachaient vivement sur ce fond d'azur, offrait l'empreinte de formes indécises qui réveillaient l'imagination. Sur une table peau d'ours étendue au pied des lions ciselés dans la cage ou du lit, brillaient 2 souliers de satin blanc, jetés avec l'incurie que cause la lassitude d'un bal. Sur une chaise était une robe froissée, dont les manches touchaient à terre. Des bas que le moindre souffle d'air aurait emportés étaient tortillés dans le pied d'un fauteuil. De blanches jarretières flottaient le long d'une causeuse. Un éventail de prix à moitié déplié reluisait sur la cheminée. Les tiroirs de la commode restaient ouverts. Des fleurs, des diamants, des gants, un bouquet, une ceinture gisaient çà et là. Je respirais une vague odeur de parfum. Tout était luxe et désordre, beauté sans harmonie. Mais déjà pour elle ou pour son adorateur, la misère, tapis là-dessous, dressait la tête et leur faisait sentir ses dents aiguës. La figure fatiguée de la comtesse ressemblait à cette chambre parsemée des débris d'une fête. Ses brimborions épars me faisaient pitié. Rassemblés, ils avaient causé la veille quelques délires. Ces vestiges d'un amour foudroyé par le remords, cette image d'une vie de dissipation, de luxe et de bruit, trahissaient des efforts de tantale pour embrasser de fuyants plaisirs. Quelques rougeurs semées sur le visage de la jeune femme attestaient la finesse de sa peau, mais ses traits étaient comme grossis, et le cercle brun qui se dessinait sous ses yeux semblait être plus fortement marqué qu'à l'ordinaire. Néanmoins, la nature avait assez d'énergie en elle pour que ses indices de folie n'altérassent pas sa beauté. Ses yeux étincelaient, semblables à une de ces hérodiades dues au pinceau de Léonard de Vinci. J'ai brocanté les tableaux. Elle était magnifique de vie et de force. Rien de mesquin dans ses contours, ni dans ses traits. Elle inspirait l'amour et me semblait devoir être plus forte que l'amour. Elle me plut. Il y avait longtemps que mon cœur n'avait battu. J'étais donc déjà payé. Je donnerais 1 000 francs d'une sensation qui me ferait souvenir de ma jeunesse. « Monsieur, me dit-elle en me présentant une chaise,
Auriez-vous la complaisance de m'attendre? Oh, jusqu'à demain midi, madame, répondis-je en repliant le billet que je lui avais présenté. Je n'ai le droit de protester qu'à cette heure-là. Puis à moi-même, je me disais, paie ton luxe, paie ton nom, paie ton bonheur, paie le monopole dont tu jouis. Pour se garantir leurs biens, les riches ont inventé des tribunaux, des juges, et cette guillotine, espèce de bougie, où viennent se brûler les ignorants. Mais pour vous, qui couchez sur la soie et sous la soie, il est des remords, des grincements de dents, cachés sous un sourire, et des gueules de lion fantastiques qui vous donnent un coup de dent au cœur. Un protêt, y pensez-vous? S'écria-t-elle en me regardant. Vous auriez si peu d'égard pour moi. Oh, si le roi me devait, madame, et qu'il ne me payât pas, je la signerais encore plus promptement que tout autre débiteur. En ce moment, nous entendîmes frapper doucement à la porte de la chambre. Je n'y suis pas, dit impérieusement la jeune femme. Anastasie, je voudrais cependant bien vous voir. Pas en ce moment, mon cher, répondit-elle d'une voix moins dure, mais néanmoins sans douceur. Mais quelle plaisanterie! Vous parlez à quelqu'un, répondit en entrant un homme qui ne pouvait être que le comte. La comtesse me regarda, je la compris, elle devint mon esclave. Il fut un temps, jeune homme, où j'aurais été peut-être assez bête pour ne pas protester. En 1763, répondit chéri, j'ai fait grâce à une femme qui m'a joliment roué. Je le méritais, pourquoi m'étais-je fié à elle? Que veut monsieur? Me demanda le comte. Je vis la femme frissonnant de la tête aux pieds, la peau blanche et satinée de son cou devint rude. Elle avait, suivant un terme familier, la chair de poule. Moi, je riais, sans qu'aucun de mes muscles me tressaillît. Monsieur est de mes fournisseurs, dit-elle. Le comte me tourna le dos. Je tirai le billet à moitié hors de ma poche. À ce moment, et à ce mouvement inexorable, la jeune femme vint à moi, me présenta un diamant. « Prenez, dit-elle, et allez-vous-en. » Nous échangeâmes les deux valeurs et je sortis en la saluant. Le diamant valait bien une douzaine de cents francs pour moi. Je trouvai dans la cour une nuée de valets qui brossaient leurs livrées, ciraient leurs bottes ou nettoyaient le somptueux équipage. « Voilà, me dis-je, ce qui amène ces gens-là chez moi. Voilà ce qui les pousse à voler décemment des millions, à trahir leur patrie, pour ne pas se crotter en allant à pied, le grand seigneur, ou celui qui le singe, prend une bonne fois un bain de boue. » En ce moment, la grande porte s'ouvrit et livra passage au cabriolet du jeune homme qui m'avait présenté le billet. « Monsieur, lui dis-je quand il fut descendu, voici 200 francs que je vous prie de rendre à madame la comtesse. Et vous lui ferez observer que je tiendrai à sa disposition pendant 8 jours le gage qu'elle m'a remis ce matin. » Il prit les 200 francs et laissa échapper un sourire moqueur, comme s'il eût dit « Ah, elle a payé, ma foi tant mieux. » J'ai lu sur cette physionomie l'avenir de la comtesse. Ce joli monsieur, blond, froid, joueur sans âme, se ruinera, la ruinera, ruinera le mari, ruinera les enfants, mangera leur dot et causera plus de ravages à travers les salons que n'en causera une batterie d'obusiers dans un régiment. Je me rendis alors rue Montmartre chez Mademoiselle Fanny. Je montai un petit escalier bien raide. Arrivé au 5e étage, je fus introduit dans un appartement composé de 2 chambres où tout était propre comme un ducat neuf. Je n'aperçus pas la moindre trace de poussière sur les meubles de la première pièce où me reçut Mademoiselle Fanny, jeune fille parisienne vêtue simplement, tête élégante et fraîche, air avenant, des cheveux châtains bien peignés qui, retroussés en 2 arcs sur les tempes, donnaient de la finesse à des yeux bleus purs comme du cristal. Le jour, passant à travers de petits rideaux tendus au carreau, jetait une lueur douce sur sa modeste figure. Autour d'elle, de nombreux morceaux de toile taillés me dénoncèrent ses occupations habituelles. Elle ouvrait du linge. Elle était là, comme le génie de la solitude. Quand je lui présentai le billet, je lui dis que je ne l'avais pas trouvé le matin. « Mais, dit-elle, les fonds étaient chez la portière. » Je feignis de ne pas entendre. « Mademoiselle sort de bonne heure, à ce qu'il paraît. »« Oh, je suis rarement hors de chez moi, mais quand on travaille la nuit, il faut bien quelquefois se baigner. » Je la regardais. D'un coup d'œil, je devinais tout. C'était une fille condamnée au travail par le malheur et qui appartenait à quelque famille d'honnêtes fermiers, car elle avait quelques-uns de ces grains de rousseur particuliers aux personnes nées à la campagne. Je ne sais quel air de vertu respirait dans ses traits. Il me sembla que j'habitais une atmosphère de sincérité, de candeur où mes poumons se rafraîchissait. Pauvre innocente, elle croyait à quelque chose. Sa simple couchette en bois peint était surmontée d'un crucifix orné de 2 branches de buis. Je fus quasi touché. Je me sentais disposé à lui offrir de l'argent à 12% seulement, afin de lui faciliter l'achat de quelque bon établissement. Mais, me dis-je, elle a peut-être un petit cousin qui se ferait de l'argent avec sa signature et grugerait la pauvre fille. Je m'en suis donc allé, me mettant en garde contre mes idées généreuses, car j'ai souvent eu l'occasion d'observer que quand la bienveillance ne nuit pas au bienfaiteur, elle tue l'obligé. Lorsque vous êtes entré, je pensais que Fanny Marivaux serait une bonne petite femme. J'opposais sa vie pure et solitaire à celle de cette comtesse qui, déjà tombée dans la lettre de change, va rouler jusqu'au fond des abîmes du vice. Eh bien, reprit-il après un moment de silence profond, pendant lequel je l'examinais. « Croyez-vous que ce ne soit rien que de pénétrer ainsi dans les plus secrets replis du cœur humain, d'épouser la vie des autres et de la voir à nu? Des spectacles toujours variés, des plaies hideuses, des chagrins mortels, des scènes d'amour, des misères que les eaux de la Seine attendent, des joies de jeunes hommes qui mènent à l'échafaud, des rires de désespoir et des fêtes somptueuses. Hier, une tragédie. Quelque bonhomme de père qui s'asphyxie parce qu'il ne peut plus nourrir ses enfants. Demain, une comédie. Un jeune homme essaiera de me jouer la scène de Monsieur Dimanche avec les variantes de notre époque. Vous avez entendu vanter l'éloquence des derniers prédicateurs. Je suis allé parfois perdre mon temps à les écouter. Ils m'ont fait changer d'opinion. Mais en de conduite, comme disait je ne sais qui, jamais. Eh bien, ces bons prêtres, votre Mirabeau, Vergniaud et les autres, ne sont que des bègues auprès de mes orateurs. Souvent, une jeune fille amoureuse, un vieux négociant sur le penchant de sa faillite, une mère qui veut cacher la faute de son fils, un artiste sans pain, un grand sur le déclin de la faveur, et qui, faute d'argent, va perdre le fruit de ses efforts, m'ont fait frissonner par la puissance de leurs paroles. Ces sublimes acteurs jouaient pour moi seul, et sans pouvoir me tromper. Mon regard est comme celui de Dieu, je vois dans les cœurs. Rien ne m'est caché. L'on ne refuse rien à qui lie et délie les cordons du sac. Je suis assez riche pour acheter les consciences de ceux qui font mouvoir les ministres, depuis leur garçon de bureau jusqu'à leur maîtresse. N'est-ce pas le pouvoir? Je puis avoir les plus belles femmes et leurs plus tendres caresses. N'est-ce pas le plaisir? Le pouvoir et le plaisir ne résument-ils pas tout votre ordre social? Nous sommes dans Paris une dizaine ainsi, tous rois, silencieux et inconnus, les arbitres de vos destinées. La vie n'est-elle pas une machine à laquelle l'argent imprime le mouvement? Sachez-le, les moyens se confondent toujours avec les résultats. Vous n'arriverez jamais à séparer l'âme des sens, l'esprit de la matière. L'or et le spiritualisme de vos sociétés actuelles. Liés par le même intérêt, nous nous rassemblons à certains jours de la semaine au café Thémis près du Pont-Neuf. Là, nous nous révélons les mystères de la finance. Aucune fortune ne peut nous mentir. Nous possédons les secrets de toutes les familles. Nous avons une espèce de livre noir où s'inscrivent les notes les plus importantes sur le crédit public, sur la banque, sur le commerce. Casuistes de la bourse, nous formons un saint office où se jugent et s'analysent les actions les plus indifférentes de tous les gens qui possèdent une fortune quelconque, et nous devinons toujours vrai. Celui-ci surveille la masse judiciaire. Celui-là, la masse financière, l'un, la masse administrative, l'autre, la masse commerciale. Moi, j'ai l'œil sur les fils de famille, les artistes, les gens du monde, et sur les joueurs, la partie la plus émouvante de Paris. Chacun nous dit les secrets du voisin. Les passions trompées, les vanités froissées sont bavardes. Les vices, les désappointements, les vengeances sont les meilleurs agents de police. Comme moi, tous mes confrères ont joui de tout, se sont rassasiés de tout et sont arrivés à n'aimer le pouvoir et l'argent que pour le pouvoir et l'argent même. Ici, dit-il en me montrant sa chambre nue et froide. L'amant le plus fougueux, qui s'irrite ailleurs d'une parole et tire l'épée pour un mot, prie à main jointe. Ici le négociant le plus orgueilleux. Ici la femme la plus vaine de sa beauté. Ici le militaire le plus fier prie tous la larme à l'œil ou de rage ou de douleur. Ici prie l'artiste le plus célèbre et l'écrivain dont les noms sont promis à la postérité. Ici enfin, ajouta-t-il en portant la main à son front, se trouve une balance dans laquelle se pèsent les successions et les intérêts de Paris tout entier. Croyez-vous maintenant qu'il n'y ait pas de jouissance sous ce masque blanc dont l'immobilité vous a si souvent étonné ? Dit-il en me tendant son visage blême qui sentait l'argent. Je retournai chez moi stupéfait. Ce petit vieillard sec avait grandi. Il s'était changé à mes yeux en une image fantastique où se personnifiait le pouvoir de l'or. La vie, les hommes me faisaient horreur. Mais tout cela doit-il donc se résoudre par l'argent ? Me demandai-je. Je me souviens de ne m'être endormi que très tard. Je voyais des monceaux d'or autour de moi. La belle comtesse m'occupa. J'avouerai à ma honte qu'elle éclipsait complètement l'image de la simple et chaste créature vouée au travail et à l'obscurité. Mais le lendemain matin, à travers les nuées de mon réveil, la douce Fanny m'apparut dans toute sa beauté. Je ne pensais plus qu'à elle. « Voulez-vous un verre d'eau sucrée ?» dit la comtesse en interrompant Derville. « Pas volontiers, » répondit-il. « Mais je ne vois là-dedans rien qui puisse nous concerner, » dit madame de Grandlieu en sonnant. « Sors de la palle !» s'écria Derville en lâchant son juron. « Je vais bien réveiller mademoiselle Camille en lui disant que son bonheur dépendait naguère du papa Gobseck, mais comme le bonhomme est mort à l'âge de 89 ans, monsieur de Resto entrera bientôt en possession d'une belle fortune. Ceci veut des explications. Quant à Fanny Malvaux, vous la connaissez, c'est ma femme. Le pauvre garçon, répliqua la vicomtesse, avouerait cela devant 20 personnes avec sa franchise ordinaire. « Ben, je le crierai à tout l'univers, » dit l'avoué. « Buvez, buvez, mon pauvre Derville, vous ne serez jamais rien que le plus heureux et le meilleur des hommes. » Je vous ai laissé rue du Helder chez une comtesse, s'écria l'oncle en relevant la tête légèrement assoupie. « Qu'en avez-vous fait ? » ?»« Quelques jours après la conversation que j'avais eue avec le vieux Hollandais, je passais ma thèse, » reprit Derville. « Je fus reçu licencié en droit et puis avocat. La confiance que le vieil avare avait en moi s'accrut beaucoup. Il me connaissait et me consultait gratuitement sur les affaires épineuses dans lesquelles il s'embarquait d'après des données sûres et qui eussent semblé mauvaises à tous les praticiens. Cet homme, sur lequel personne n'aurait pu prendre le moindre empire, écoutait mes conseils avec une sorte de respect. Il est vrai qu'il s'en trouvait toujours très bien. Enfin, le jour où je fus nommé maître clerc de l'étude où je travaillais depuis 3 ans, je quittai la maison de la rue des Grès et j'allai demeurer chez mon patron qui me donna la table, le logement et 150 francs par mois. Ce fut un beau jour. Quand je fis mes adieux à l'usurier, il ne me témoigna ni amitié ni déplaisir. Il ne m'engagea pas à le venir voir. Il me jeta seulement un de ses regards qui, chez lui, semblait en quelque sorte trahir le don de seconde vue. Au bout de 8 jours, je reçus la visite de mon ancien voisin. Il m'apportait une assez difficile affaire, une expropriation. Il continua ses consultations gratuites avec autant de liberté que s'il me payait. À la fin de la seconde année, de 1818 à 1819, mon patron, homme de plaisir et fort dépensier, se trouva dans une gêne considérable et fut obligé de vendre sa charge. Quoique en ce moment les études n'eussent pas acquis la valeur exorbitante à laquelle elles sont montées aujourd'hui, mon patron donnait la sienne et n'en demandant que 150 000 francs. Un homme actif, instruit, intelligent, pouvait vivre honorablement, payer les intérêts de cette somme et s'en libérer en 10 années pour peu qu'il aspirât de confiance. Moi, le 7e enfant d'un petit bourgeois de Noyon, je ne possédais pas une obole et ne connaissais dans le monde d'autres capitalistes que le papa Gobseck. Une pensée ambitieuse et je ne sais quelle lueur d'espoir me prêtèrent le courage d'aller le trouver. Un soir donc, je cheminais lentement jusqu'à la rue des Grès. Le cœur me battit bien fortement quand je frappai à la sombre maison. Je me souvenais de tout ce que m'avait dit autrefois le vieil avare, dans un temps où j'étais bien loin de soupçonner la violence des angoisses qui commençaient au seuil de cette porte. J'allais donc le prier comme tant d'autres. « Eh bien non, me dis-je, un honnête homme doit partout garder sa dignité. La fortune ne vaut pas une lâcheté. Montre-nous positif autant que lui. » Depuis mon départ, le papa Gobseck avait loué ma chambre pour ne pas avoir de voisins. Il avait aussi fait poser une petite chatière grillée au milieu de sa porte et il ne m'entr'ouvrit qu'après avoir reconnu ma figure. « Eh bien, me dit-il de sa petite voix flûtée, votre patron en son étude. Comment savez-vous cela? Il n'en a encore parlé qu'avec moi. » Les lèvres du vieillard se tirèrent vers les coins de sa bouche absolument comme des rideaux, et ce sourire muet fut accompagné d'un regard froid. « Il fallait cela pour que je vous fiche chez moi, » ajouta-t-il d'un ton sec, et après une pause pendant laquelle je demeurai confondu. Bah, « Écoutez-moi, monsieur Gobseck, » repris-je avec autant de calme que je puis en affecter devant ce vieillard qui fixait sur moi des yeux impassibles dont le feu clair me troublait. Alors il fit un geste comme pour me dire « Parlez. » Je sais qu'il est fort difficile de vous émouvoir. Aussi ne perdrai-je pas mon éloquence à essayer de vous peindre la situation d'un clerc sans le sou, qui n'espère qu'en vous et n'a dans le monde d'autre cœur que le vôtre dans lequel il puisse trouver l'intelligence de son avenir. Mais sur le cœur, les affaires se font comme des affaires, et non comme des romans avec de la sensiblerie. Voici le fait. L'étude de mon patron rapporte annuellement entre ses mains 20 000 francs. Mais je crois qu'entre les miennes, elle en vaudra 40. Il veut la vendre 50 000 écus. Je sens là, dis-je en me frottant le front, que si vous pouviez me prêter la somme nécessaire à cette acquisition, je serais libéré dans 10 ans. Voilà parlé, répondit le papa Gobseck qui me tendit la main et serra la mienne. Jamais, depuis que je suis dans les affaires, reprit-il, personne ne m'a déduit plus clairement les motifs de sa visite. Des garanties ? Dit-il en me toisant de la tête aux pieds. « Néant, » ajouta-t-il après une pause, « quel âge avez-vous ? » 25 ans dans 10 jours, » répondis-je. « Sans cela, je ne pourrais traiter. »« Juste. »« Eh bien, possible. Ben, »« ma foi, il faut aller vite, sans cela, j'aurai des enchères ici, sœur. » « Ah, mais apportez-moi demain matin votre extrait de naissance et nous parlerons de votre affaire. J'y songerai. » Le lendemain, à 8 heures, j'étais chez le vieillard. Il prit le papier officiel, mit ses lunettes, toussa, cracha, s'enveloppa dans sa houppelande noire et lut l'extrait des registres de la mairie tout entier. Puis il le tourna, le retourna, me regarda, retoussa, s'agita sur sa chaise et il me dit « C'est une affaire que nous allons tâcher d'arranger. » Je tressaillis. « Je tire 50% de mes fonds, reprit-il, quelquefois 100, 200, 500%. » À ces mots, je pâlis. « Mais en faveur de notre connaissance, je me contenterai de 12,5% d'intérêt par... » Il hésita. « Eh bien oui, pour vous, je me contenterai de 13% par an. Cela vous va-t-il ? » ?»« Oui, répondis-je. Mais si c'est trop, répliqua-t-il, défendez-vous, Grotius. » Il m'appelait Grotius en plaisantant. « En vous demandant 13%, je fais mon métier. Voyez si vous pouvez les payer. Je n'aime pas un homme qui tope à tout. Est-ce trop ?»« Non, dis-je, je serai quitte pour prendre un peu plus de mal. Parbleu, dit-il en me jetant son malicieux regard oblique, vos clients paieront. » Non, de par tous les diables, m'écriai-je, ce sera moi. Je me couperai la main plutôt que d'écorcher le monde. Bonsoir, me dit le papa Gobseck. Mais les honoraires sont tarifés, dis-je. Oh, ils ne le sont pas, reprit-il, pour les transactions, pour les atermoiements, pour les conciliations. Vous pouvez alors compter des 1 000 francs, des 6 000 francs même, suivant l'importance des intérêts pour vos conférences, vos courses, vos projets d'actes, vos mémoires et votre verbiage. Il faut savoir rechercher ces sortes d'affaires. Je vous recommanderai comme le plus savant et le plus habile des avoués. Je vous enverrai tant de procès de ce genre-là que vous ferez crever vos confrères de jalousie. Verbrust, Palma, Gigonnet, mes confrères vous donneront leurs expropriations. Et Dieu sait s'ils en ont. Vous aurez ainsi deux clientèles, celle que vous achetez et celle que je vous ferai. Vous devriez presque me donner 15% de mes 150 000 francs. Oh, soit, mais pas plus, dis-je avec la fermeté d'un homme qui ne voulait plus rien accorder au-delà. Le papa Gobseck se radoucit et parut content de moi. Je paierai moi-même, reprit-il, la charge à votre patron, de manière à m'établir un privilège bien solide sur le prix et sur le cautionnement. Oh, mais tout ce que vous voudrez pour les garanties. Puis vous m'en représenterez la valeur en 15 lettres de change acceptées en blanc, chacune pour une somme de 10 000 francs. Pourvu que cette double valeur soit constatée. Non, s'écria Gobseck en m'interrompant. Pourquoi voulez-vous que j'aie plus de confiance en vous que vous n'en avez en moi ? Je gardai le silence. « Et puis, vous ferez, dit-il en continuant avec un ton de bonhomie, mes affaires sans exiger d'honoraire tant que je vivrai, n'est-ce pas ? Soit, pourvu qu'il n'y ait pas d'avance de fonds. Juste, juste, dit-il. Ah, ça, reprit le vieillard dont la figure avait peine à prendre un air de bonhomie. « Vous me permettrez d'aller vous voir. Vous me ferez toujours plaisir. Oui, mais le matin, cela sera bien difficile. Vous aurez vos affaires et j'ai les miennes. Mais venez le soir. »« Oh non, répondit-il vivement, vous devez aller dans le monde voir vos clients. Moi, j'ai mes amis à bon café. » « Ses amis, pensais-je. Eh bien, dis-je, pourquoi ne pas prendre l'heure du dîner? C'est cela, dit Gobseck, après la bourse à 5 heures. Eh bien, vous me verrez tous les mercredis et les samedis. Nous causerons de nos affaires comme un couple d'amis. Ah, je suis gai, quelquefois. Donnez-moi une aile de perdrix, un verre de vin, de champagne, nous causerons. Je sais bien des choses qu'aujourd'hui l'on peut dire et qui vous apprendront à connaître les hommes et surtout les femmes. Va pour la perdrix, le verre de vin, de champagne. Ne faites pas de folie, autrement vous perdriez ma confiance. Ne prenez pas un grand train de maison. Ayez une vieille bonne, une seule. J'irai vous visiter pour m'assurer de votre santé. J'aurai un capital placé sur votre tête. Je dois m'informer de vos affaires. Allons, venez ce soir avec votre patron. Pourriez-vous me dire s'il n'y a pas d'indiscrétion à le demander, dis-je au petit vieillard quand nous atteignîmes au seuil de la porte, de quelle importance était mon extrait de baptême dans cette affaire? Jean Esther van Gobseck haussa les épaules, sourit malicieusement et me répondit: Combien la jeunesse est sotte! Apprenez donc, monsieur l'avoué, car il faut que vous le sachiez pour ne pas vous laisser prendre, qu'avant 30 ans, la probité et le talent sont encore des espèces d'hypothèques. Passé cet âge, l'on ne peut plus compter sur un homme. Et il ferma sa porte. 3 mois après, j'étais avoué. Bientôt, j'eus le bonheur, madame, de pouvoir entreprendre les affaires concernant la restitution de vos propriétés. Le gain de ces procès me fit connaître, et malgré les intérêts énormes que j'avais à payer à Gobseck, en moins de 5 ans, je me trouvais libre d'engagement. J'épousais Fanny Malvaux, que j'aimais sincèrement. La conformité de nos destinées, de nos travaux, de nos succès, augmentait la force de nos sentiments. Un de ses oncles, fermier devenu riche, était mort en lui laissant 60 000 francs qui m'aidèrent à m'acquitter. Depuis ce jour, ma vie ne fut que bonheur et prospérité. Ne parlons donc plus de moi, rien n'est insupportable comme un homme heureux. Revenons à nos personnages.